Chapitre 43. Les araignées sociales collaborent en équipe d'ouvrières pour bâtir d'énormes colonies. Elles se nourrissent aussi en groupe afin de pouvoir capturer et partager de plus grosses proies. Tiré de Freaky Facts About Spiders, C. Morley, 2007. Vous étiez debout à côté d'Harold quand le premier coup de feu a été tiré, expliquait Quincy à Sal. Si Harold ne s'était pas relevé brusquement, c'est vous que la balle aurait atteint, pas lui. Assis à l'arrière d'une ambulance, Sal tenait sa chemise relevée pour recevoir à contre-cœur les soins d'un ambulancier. Il avait déjà refusé d'être emmené à l'hôpital. Quincy, Rainey, Kimberly et Mac restaient avec lui en attendant le verdict officiel de l'ambulancier qui évaluait les dégâts. Sal jeta un mauvais regard au jeune homme qui sondait son côté avec des pinces. « Aïe !»« Je vous avais dit que vous devriez aller à l'hôpital, » répondit l'ambulancier avec indulgence tout en recommençant à retirer des fibres de la plaie avec ses pinces. D'après Ginny, Dinekara voulait que les enveloppes contenant les permis de conduire vous soient remises, à vous, précisément. « Pourquoi vous, Sal ? Vous ne vous êtes pas posé la question ?»« Les disparitions, c'est ma marotte. » Je vous l'ai déjà expliqué. Au tour de Kimberly d'adresser un regard réprobateur à l'agent spécial du JBI. Dinekara t'a pris pour cible à cause de ta marotte ? Qui est-ce qui est têtu, là ? C'est à peu près aussi logique que de laisser ses trophées sur le pare-brise de ma voiture. Voyons s'il voulait vraiment m'appâter, il y avait plus simple. L'efficacité n'est pas ce qui motive les tueurs en série, assura Quincy. Leurs rituels, souvent très complexes, se fondent sur un besoin émotionnel. Dans le cas présent, il s'agit d'un homme qui, dans sa vie de tous les jours, se sent impuissant. Toute sa vie fantasmée tourne donc autour de la notion de contrôle. Il se complaît dans le secret et la manipulation. Il est une araignée qui tisse sa toile pour capturer sa proie. Ce type de méthode, vous poussez à vous impliquer grâce à un appât, répond certainement à son besoin émotionnel de se voir comme un super prédateur. Même si par ailleurs ce n'est pas très pragmatique. Comprendre sa motivation émotionnelle permettra de coincer le tueur. « Il faut tuer celui qu'on aime », murmura Kimberly en regardant Sal. « Peut-être qu'après toutes ces années, il t'aime encore. Et peut-être qu'après toutes ces années, il veut réussir son examen de passage. » Sal se tenait enfin tranquille à l'arrière de l'ambulance. « Mon frère est mort », affirma-t-il avec brusquerie, mais tous devinaient à sa voix qu'il n'en était plus aussi certain. Comme la nuit tombait sur la montagne, Rachel déclara la scène de crime zone interdite. On ne s'approcherait plus du sommet tant qu'une unité tactique n'aurait pas sécurisé les lieux et disposé des tireurs d'élite afin d'assurer une protection permanente. L'équipe devait se reposer. Elle-même partie pour l'hôpital, elle appellerait dès qu'elle aurait des nouvelles d'Harold. Quincy et Rainey se retirèrent à l'hôtel pour une nouvelle nuit. Mac et Kimberly proposèrent à Sal de le conduire car il n'était manifestement pas en état de prendre le volant. Il monta derrière Kimberly et resta silencieux, le côté enveloppé de gaze blanche, la chemise ensanglantée sortie du pantalon. Tous les agents des forces de l'ordre du pays avaient maintenant connaissance des rares informations dont on disposait sur Dinekara. Ces méfaits lui avaient valu d'être aussitôt placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI et, à l'heure qu'il était, les autorités préparaient un communiqué pour les grandes chaînes d'information. Au matin, Dahlonega et ses environs grouilleraient de tous les agents d'État et unités de la garde nationale disponibles. La journée d'aujourd'hui avait été un film d'horreur, mais celle du lendemain serait un vrai cirque. Dans ce genre de situation, Kimberly espérait simplement qu'il n'y aurait pas de blessés. Pour sa part, elle ne croyait pas que Dinekara essaierait de fuir le comté. Elle le voyait plutôt comme une sorte d'Eric Rudolph. L'homme qui, après avoir placé une bombe dans le parc olympique d'Atlanta, s'était terré pendant 5 ans dans les Great Smoky Mountains en se nourrissant de gibier et de glands. D'après ce qu'on savait, Dinekara possédait la même connaissance de la vie en extérieur et le même tempérament solitaire. Et puis, il y avait encore la question de Ginny Jones et du garçon disparu. D'ailleurs, Kimberly se demandait. Son portable sonna. Elle jeta un œil à l'écran, vit qu'il s'agissait d'un appel local, ouvrit le téléphone. « Agent spécial Quincy ?»« Adjoint Roy à l'appareil. Nous nous sommes parlé cet après-midi à propos de la détenue Jones. »« Ah oui, la détenue Jones que vos services ont réussi à relâcher alors qu'elle s'était rendue complice d'une tentative de meurtre sur agent fédéral. Je me souviens. » Roy ricana. « Je savais que vous diriez ça. Cela dit, techniquement, c'est au juge que vous devriez vous en prendre. J'y compte bien, dès que je serai de retour en ville. Je vous fais confiance. » Écoutez, Rick et moi, on regrette vraiment la façon dont les choses se sont passées. Surtout après ce qui est arrivé sur Blood Mountain. Surtout. Alors on a réfléchi et Rick s'est souvenu qu'il avait vu Ginny Jones enlacer le type à côté d'une voiture. Alors il est allé au tribunal cet après-midi et il a récupéré la cassette de la caméra de surveillance du parking. Et effectivement, l'homme repart à pied, mais on voit Ginny monter dans la voiture. C'est une Nissan bleue immatriculée en Georgie, numéro. Kimberly attrapa un stylo pour noter fiévreusement l'information. Beau boulot, messieurs. Évidemment, on envoie aussi un message à toutes les patrouilles. Mais j'ai pensé que vous aimeriez avoir l'info en direct. On ne se contente pas de manger du gombo frit et de chasser l'opossum par ici, vous savez. Vous chassez l'opossum ? Laissez tomber. Merci, sincèrement, merci beaucoup. Kimberly raccrocha. Elle regarda Mac. Puis sale dans le rétroviseur. « Hé, dit-elle, j'ai une idée. » Nous sommes partis de l'hypothèse que le jeune enfant n'accompagnait pas Dinekara et Aaron pendant leur randonnée, pas vrai ? Expliqua Kimberly avec animation en guidant Mac vers l'ancien quartier de Dinekara. Essentiellement parce que la serveuse du Smith House a dit ne jamais avoir vu Dinekara qu'avec un seul adolescent. Et puis un enfant les aurait ralentis pendant qu'ils transportaient du matériel sur une pente aussi raide. « D'accord, » convint Mac, même si c'était la première fois qu'il entendait parler de tout cela. « Bon, et s'il ne laissait pas le gamin tout seul ? Si Dinekara avait une babysitter pour le surveiller ? Quelqu'un de confiance pour s'assurer qu'il ne filerait pas ?»« Comme Ginny Jones, » conclut Sal à l'arrière. « Exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'il était prêt à allonger $10,000 pour sortir Ginny de la prison du comté. Comme il voulait s'en prendre à nous, ou plutôt à toi, Sal, il avait besoin de quelqu'un pour jouer les nounous.
« Je te suis jusqu'au moment où on arrive dans ce vieux quartier, » murmura Mac en suivant la direction que Kimberly montrait du doigt pour prendre la petite route vallonnée du dit quartier. « Tout en haut de la côte, » lui indiqua-t-elle. « À environ 4 kilomètres, la dernière maison sur la droite. »«
Tu peux aussi chercher le gros tas de décombres fumants, » ajouta Sal avec humour. « C'est ce que je voulais dire. Tu m'as expliqué que la maison avait brûlé de fond en comble. » Donc le gamin ne peut pas y être. Non, mais d'après les voisins, Ginny Jones n'y était pas non plus. Aucun d'eux n'a dit avoir vu une fille dans la maison, et pourtant elle passait manifestement beaucoup de temps avec Aaron et Dinekara. Donc je me demande si elle n'avait pas, elle aussi, une maison dans le coin.
Mais elle travaille à Sandy Springs, protesta Sal. On a vu son appart.
Un deux pièces pourri, reconnut Kimberly, pratique pour les nuits où elle se prostitue. Mais souviens-toi de ce qu'a dit Ginny. Le deuxième gagne-pain de Dinekara est la pornographie sur Internet. Et Aaron et elle en ont tous les deux tourné pour lui. Donc il devait y avoir des moments où elle était là-haut pour l'aider dans cette activité. Alors pourquoi aucun des voisins ne l'a-t-il vue ? Nous savons qu'elle fréquentait Aaron. Nous pensons qu'elle gardait le plus jeune. Elle avait forcément un chez-elle. C'est la seule explication. Je pencherai pour un endroit proche. Où Dinekara pouvait la tenir à l'œil. Comme ici, par exemple. Stop, attends. Tu vas jusqu'à la prochaine allée et tu t'arrêtes. Mac relança la voiture sur quelques dizaines de mètres, jusqu'à la maison suivante, puis se rangea. Qu'est-ce qu'on cherche ? Une Nissan bleue, comme celle qui est garée devant cette maison avec la grande galerie couverte. Mesdames et messieurs, je crois que nous avons trouvé Ginny Jones. D'un commun accord, ils décidèrent que Kimberly allait attendre dans la voiture. Mac et Sal agiraient, elle appellerait des renforts. Elle vit que son ton de consentement joyeux éveillait à lui seul les soupçons de Mac. Il l'embrassa violemment. Elle le prit par les épaules et l'embrassa à son tour. Sal se détourna. Puis Mac et Sal allèrent vers le coffre et ouvrirent la cantine, où Mac entreposait son matériel, notamment des gilets pare-balles, un fusil, une réserve de munitions. Kimberly alluma la radio,
indiqua au central qu'ils avaient découvert un véhicule correspondant à un appel à toutes les patrouilles en cours et qu'ils agissaient avec prudence. Renfort demandé, prièrent d'être discrets. Ni gyrophare, ni sirène. Avec un peu de chance, Mac et Sal pourraient attirer Ginny à l'extérieur et tout serait fini avant même d'avoir commencé. Ils arrêteraient la fille, sauveraient l'enfant. Après la journée qu'ils avaient passée, un happy end ne serait pas de refus. Les deux hommes commencèrent à descendre la rue et ne tardèrent pas à être engloutis par l'obscurité. L'homme retourna Rita sur le dos. Elle cria, car le mouvement exacerba la douleur de sa hanche. Pour la peine, il la gifla. C'était un dur, celui-là. Meilleur que la fille. Il explora les replis volumineux des vêtements de Rita, trouva rapidement le colt et le tira de la ceinture de son pantalon. Il se redressa, et ses dents blanches brillaient dans l'ombre. « Vous êtes armé contre moi ou contre le gamin ?»« Je parie que vous ne savez pas à quel point il est perturbé. Faut dire qu'il a déjà fait de ses trucs. » Il ricana tout seul, comme à une plaisanterie qui lui était personnelle et qu'elle ne comprendrait jamais. Puis il la souleva à bras-le-corps et la flanqua en position plus ou moins assise sur une des chaises de la cuisine. Cette fois, elle se mordit les lèvres pour ne pas crier. Mais cette nouvelle vague de douleur lui fit tourner la tête. Elle pensa qu'elle allait peut-être défaillir. Il dut le penser aussi, car il la gifla à nouveau, et elle se remit au garde-à-vous avec un sursaut. Elle crut apercevoir un léger mouvement derrière lui. Une ombre qui dansait sur le mur. « Joseph, » pria-t-elle intérieurement. « Je t'en prie, Joseph. C'est le moment ou jamais de faire du ramdam. » Mais l'ombre se matérialisa. C'était la fille qui descendait les escaliers en traînant le garçon à sa suite. « Ah, te voilà. C'est pas trop tôt, » dit-elle. Et elle poussa le garçon en avant. Celui-ci trébucha et tomba aux pieds de l'homme. Ses joues étaient couvertes de traces rouges vifs et sur certaines, le sang perlait déjà. Il ne s'était pas rendu sans résistance. Les bras de la fille portaient les mêmes égratignures, mais elle tenait maintenant le couteau du garçon dans son poing. « Je l'ai trouvé au grenier, » expliqua-t-elle. « Petit con !» L'homme se pencha, attrapa l'enfant par la peau du cou et lui rejeta la tête en arrière jusqu'à ce qu'il soit obligé de le regarder dans les yeux. « Qu'est-ce que je t'avais dit, petit ? Pas moyen de t'enfuir. Tu es à moi. » Le garçon ne répondit rien, le visage fermé, impénétrable. Rita voyait qu'il plongeait quelque part au fond de lui-même, qu'il sauvait le peu qu'il pouvait sauver lui-même. L'homme semblait le savoir aussi. « Bon, petit, tu sais ce qui doit arriver. » Le garçon ne dit rien, ne bougea pas. « Tu m'as désobéi. Maintenant, il faut que tu sois puni. »« Je peux le faire ?» demanda immédiatement la fille. « Toi, ta gueule. Tu crois pas que tu m'as assez créé d'emmerde pour aujourd'hui ?» Elle se tut. L'homme observait le garçon. Rita s'attendait à un geste violent, qu'il frappe du poing, qu'il balance un coup de pied. Au lieu de ça, il commença à inspecter la pièce. Puis son regard se posa sur le colt qui trônait sur la table de cuisine. Il le prit. « Viens là, petit, » dit-il. Le garçon se releva docilement, avança. L'homme désigna Rita, assise, ligotée et folle de douleur sur la chaise en bois dur. « Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, petit. » « Je t'avais dit qu'il ne pouvait y avoir personne de l'extérieur. Je t'avais dit ce qui arriverait si jamais tu demandais de l'aide. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ?» Le garçon baissa les yeux. L'homme lui asséna une gifle retentissante. « Regarde-moi quand je te parle, petit. Tu te souviens de ce que j'ai dit ? Tu te souviens ?»« Oui, monsieur, » murmura le garçon. « Je ne mentais pas. Je ne mens jamais. » Puis l'homme se retourna et braqua le pistolet sur le front de Rita. « Dis-lui adieu. »«
Adieu, »
murmura le garçon. Et juste au moment où Rita fermait les yeux, où elle se raidissait avant l'impact de la balle qui lui fracasserait le crâne, une nouvelle claque retentit et elle ouvrit les yeux pour découvrir que l'homme avait frappé le garçon avec une telle violence qu'il l'avait jeté à terre. « Tu crois que je te laisserais t'en tirer comme ça ? » Tu crois que je suis aussi gentille ou aussi stupide ?
Non, 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 murmura, supplia, implora le garçon.
Debout ! Le garçon se leva. Prends ce pistolet. Il prit docilement le Colt. Descends-moi cette connasse.
Le garçon se tourna et pointa le pistolet sur Rita. Elle ne ferma pas les yeux cette fois-ci. Elle voulait qu'il voie son visage. Elle voulait qu'il sache qu'elle lui pardonnait. Derrière lui, une porte de placard s'ouvrit brusquement.
L'homme fit volte-face.
Qui va là ?
Joseph, cria Rita en son fort intérieur. S'il te plaît, Joseph. Un tiroir trembla, s'entr'ouvrit.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
Puis les casseroles se mirent à vibrer dans le placard. La bouilloire a glissé sur la cuisinière. Le robinet a laissé couler de l'eau. Debout, au milieu de la cuisine, l'homme hurla à plein poumon vers Rita.
« Qui est-ce qui fait ça ?»
Elle eut cette idée, peut-être le simple souvenir de ce qu'avait dit la fille, ou peut-être avec l'aide de Joseph, de répondre. « Vous avez le bonjour du Burgerman. »
L'homme éclata de rire.
Le garçon appuya sur la détente. Devant la maison, Mac et Sal gravissaient les marches à pas feutrés. Ils s'approchèrent de la porte, courbés en deux pour ne pas être vus par les fenêtres. Ils se redressèrent de part et d'autre des vitres, se livrèrent à une brève inspection et reprirent leur position, le dos collé au mur.
« Les fenêtres sont obstruées, » murmura Mac.
En face de lui, Sal confirma « J'imagine que Ginny ne veut pas que les voisins voient à l'intérieur. » Mac se pencha en avant, essaya la poignée, découvrit qu'elle tournait.
« Ouvert, »
articula-t-il en silence. Sal s'étonna de cette chance, puis haussa les épaules.
« Ok, on y va. »
Mac venait de tourner le bouton lorsqu'il entendit un grand cri, immédiatement suivi d'un coup de feu. Sal sortit sa radio, débita l'adresse. «
Fusillade, fusillade, demandons renfort immédiat, appel à toutes les unités. »
Puis Mac et lui se baissèrent et s'engouffrèrent dans le salon.
« Police, lâchez vos armes !»
Kimberly se penchait pour régler le volume de la radio lorsqu'un coup frappé à sa fenêtre la fit sursauter. Sa main se dirigeait déjà vers son étui d'épaule lorsqu'elle aperçut le visage couronné de bigoudis de l'autre côté de la vitre. C'était la voisine de la veille au soir, à moins que ça n'ait été le matin même. Celle avec qui Sal et elle avaient discuté en regardant la maison de Dinekara partir en fumée. Kimberly ouvrit la portière, descendit.
« Vous êtes de la police, n'est-ce pas ?»
demanda la femme, manifestement dans tous ses états.
« Je peux vous aider ?»«
Il se passe quelque chose d'anormal chez les voisins. » Je regardais par hasard par la fenêtre de ma chambre quand j'ai aperçu de la lumière dans le grenier. Quelqu'un a scotché quelque chose à une des fenêtres. On dirait le numéro des secours.
Kimberly désigna d'un signe de tête la maison en question.
Vous parlez de cette maison, celle de la jeune fille ? La voisine parut perplexe.
La jeune fille ? Rita n'est pas une jeune fille. Voyons, elle a 90 ans bien sonnée. La maison est dans sa famille depuis des générations.
Autour de Kimberly de ne pas comprendre. Je croyais que vous parliez de la maison d'à côté, celle avec la grande galerie qui fait le tour.
C'est celle-là ?
Il n'y a pas de jeune fille qui habite là ?
Pas que je sache.
Est-ce qu'il y en a une qui vient de temps en temps ?
Non. En tout cas, pas que j'ai vu.
Cela dit, un homme est arrivé il y a une vingtaine de minutes, avec une casquette rouge.
Il commença par ressentir de la douleur. Il en fut surpris. Il y avait si longtemps qu'il n'avait rien ressenti en rapport avec son propre corps qu'il croyait ses terminaisons nerveuses fichues, finies. Hors d'usage. Sa peau n'était plus qu'un exosquelette et ça lui plaisait comme ça. Mais c'était comme si son côté s'était embrasé. Il le soutint, surpris d'éprouver encore davantage de douleur, puis éprouva l'atroce humidité de son sang. Il se tourna vers le garçon, qui tira encore. La balle le toucha plus haut, à l'épaule. Il se détourna, toujours debout, et entendit une nouvelle détonation. ressentit une nouvelle douleur cuisante, entendit encore une détonation, puis une autre encore. Ses jambes cédèrent sous lui. Il tomba lentement au sol en regardant le linceul gris du plafond. Était-ce son imagination ou il y avait des ombres qui bougeaient là-haut ? Il crut voir le visage du Burgerman et gémit. La fille criait. Pourquoi est-ce qu'elle criait, cet abruti, si c'était sur lui qu'on tirait ? Il aurait voulu qu'elle se taise. Il voulait que le monde entier se taise. La fille, le pistolet, la terrible violence qui s'insinuait dans sa tête. Et là, il entendit de nouveaux cris, graves et pleins d'autorité, ceux-là. « Police, police, les mains en l'air, lâchez votre arme !» La fille se remit à crier. La vieille femme dit au garçon « Pose ça, mon enfant, tout va bien, pose ça !» Il sentait son sang s'écouler de lui sur le sol. Il se sentait mourir, et il était bien placé pour le savoir, il avait vu ça assez souvent. La façon dont le corps de ce premier garçon s'était affaissé, puis écroulé, il y avait des années de cela. Et les filles, les unes après les autres, le sang qui coulait de leurs veines dans le siphon de la baignoire sous son regard excité, jusqu'à ce que la dernière goutte soit partie, qu'elle soit réduite à l'état de poupée de chiffon, et que lui, qui s'était senti si puissant, se fasse simplement l'effet d'un enfant dans un corps d'adulte, qui jouerait avec des jouets surdimensionnés. Jusqu'à ce qu'il kidnappe la suivante, naturellement. Et encore la suivante. C'était la fille qui tenait le pistolet à présent. Il le savait parce que les policiers lui criaient des ordres et que la vieille femme répétait au garçon de se baisser. Cette fille était une teigne, il l'avait toujours su. C'était pour ça qu'il ne s'était jamais vraiment résolu à la tuer. Parce que c'était une teigne, et que c'était d'autant plus enivrant de la faire marcher droit. Peut-être qu'elle allait lui tirer dessus, elle aussi. Elle aimerait ça. Il se demanda pour le bébé. Est-ce que c'était le sien ? Celui d'Aaron ? Celui d'un autre ? Et il se dit, dans les toutes dernières secondes qui lui restaient, qu'il était content de mourir, avant d'avoir jamais vu ce bébé, avant d'avoir foutu sa vie en l'air. Puis, une fenêtre se brisa soudain au fond de la cuisine. Du coin de l'œil, il vit la fille se retourner pour faire face à cette nouvelle attaque. Une silhouette traversa les airs, attrapa la fille au genou et la plaqua au sol. Un instant plus tard, un enquêteur maculé de sang se releva, le colt à la main. « Mon frère, » murmura l'homme. Et Sal le regarda enfin dans les yeux. Comme elle ne pouvait pas passer par la fenêtre, Kimberly dut attendre que Mac déplace l'armoire pour ouvrir la porte du jardin. Elle avait fait le tour de la maison en courant, aperçu le faisceau de la seule lampe torche dans la cuisine et en avait entendu assez pour comprendre ce qui se passait. Elle avait lancé une pierre vers Ginny et prié pour que cette diversion suffise à Sal et Mac pour prendre le contrôle de la situation. Maintenant que Mac avait allumé le plafonnier, elle découvrait une vieille femme, recroquevillée, suffoquée de douleur, coincée sur une chaise de cuisine, et un jeune garçon, le regard vide, à genoux à ses pieds. Ginny Jones était à plat ventre à 3 mètres de là, pieds et poings liés. Et Sal était penché sur le corps d'un homme qui gisait dans une mare de sang. « Vincent !» murmura Sal. « Vinny !» Il toucha le visage de l'homme avec une telle douceur que ça faisait mal à voir. « Je suis désolée !» murmura Sal. « Désolée, désolée, désolée !» « Je t'ai vu, ce jour-là. Je suis désolée. Je voulais voir maman. » Rentrer à la maison. Je t'ai vu. Chut. Le bon fils, dans ton uniforme. Pas moi. Tu avais raison pour le Burgerman qui broie les méchants garçons. Chut. Chut. pas fort, pas comme toi. Blessé, fatigué, très fatigué. Tout va bien maintenant. Je suis là, Vinnie, je suis là. Une azalée. Faut retrouver une azalée. Ça va, tout ira bien. J'aurais voulu, dit-il d'une voix entrecoupée. J'aurais voulu. Il expira. Sale, en larmes, berça le corps de son frère.